7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des cosmétiques pour peau noire et métissée. Maquillage, fond de teint, masque nourrissant, c'est un marché en pleine croissance, mais paradoxal. D'un côté, les consommatrices attendent des produits spécifiques pour leur peau, pour leurs cheveux aussi. Et elles sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour ça, parfois. Et de l'autre, les grandes marques internationales hésitent à communiquer à destination des peaux noires et préfèrent souvent parler à toutes les femmes de toutes les couleurs de peau. Alors les peaux noires sont-elles suffisamment prises en compte par l'industrie de la cosmétique? Faut-il ethniciser le marketing? C'est à vous de nous répondre. Les voisines, dites-nous déjà comment vous prenez soin de votre beauté. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez nous appeler en direct et gratuitement. Je vous présente nos invités dans le studio. Notre partenaire du magazine Brune, Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Emmanuel.
Et bonne année, si on ne s'est pas encore parlé depuis le début 2019.
Très belle année.
Très belle année à vous. Catherine Lasky du magazine mensuel Black Beauty Mag. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Muriel Beradia, fondatrice de la marque de cosmétiques Nuanciam. Bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Nuanciam qui est distribué dans une vingtaine de pays, à la fois en pharmacie et sur Internet. Également avec nous, Michel Nicoué-Pachou. Bonjour,
bonjour
Michel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes docteur en pharmacie, ça c'est votre ancien métier. Vous publiez un livre de recettes beauté noire cosmétique fait maison pour peau noire et cheveux crépus. Et on peut vous lire aussi sur votre blog Potions
et Chaudron.
Chaudron, mais pas magique.
Hein. Non, presque, mais c'est très, très sérieux, très très sérieux.
Et en fin d'émission, comme chaque lundi, l'Afrique qui gagne, portrait de Senek Lomanga, 25 ans. Il est congolais, il a créé il y a 2 ans la première plateforme de vente en ligne de vêtements en RDC. Ce sont uniquement des créateurs congolais pour le moment. Mais tout de suite, revenons aux produits de beauté. Message d'une voisine, Dovi, à Cotonou, au Bénin, posté sur WhatsApp.
Oui, bonjour les voisins, bonjour Emmanuel Bastide. Évidemment qu'il faut ethniser les produits de beauté. Moi, je suis arrivée en France dans les années 80, c'est-à-dire 86. Eh bien, tout était fait pour les peaux blanches. Évidemment, quand on est blanc et blanche, quand on est de l'autre côté, on ne voit pas l'autre. Et moi, quand j'allais acheter des produits, les produits étaient toujours plus blancs que moi. Donc voilà, j'étais obligée de commander les produits aux États-Unis. Mais maintenant, évidemment, 30 ans après, ça a changé, ça a beaucoup changé, ça s'est beaucoup ethnicisé. Donc oui, bien sûr qu'il faut ethniciser. Et puis, il faut se reconnaître. Le marketing doit être aussi à mon image. Si je dois acheter quelque chose, la personne chez qui j'achète, ou en tout cas le produit que j'achète, je dois voir devant moi que ça va donner telle chose. Mais sur une peau nettement plus claire que moi, je ne vois pas. Donc oui, il faudrait aller chercher des gens qui nous ressemblent pour nous les vendre. C'est tout simple. Merci, bonne journée.
Voilà, des gens qui nous ressemblent. Appelez-nous maintenant en direct, l'émission a commencé, alors ne laissez plus de messages audio. 33 1 84 22 71 71. Réaction, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, du point de vue de cette auditrice au Bénin.
Ça fait partie du bon sens, en fait. Quand on a une peau plus ou moins foncée, olivâtre, une peau dorée, une peau très, très, très mate, on se dit, bon, on va essayer de trouver un produit qui la rende uniforme. Mais si ce produit n'est pas adapté, comment voulez-vous, en fait, qu'on se sente d'abord qu'on l'achète, premièrement, et deuxièmement, qu'on se sente à l'aise? Parce qu'en fait, la femme est toujours à la recherche d'une sublimation de sa beauté. Donc, et pour avoir cette sublimation, pour être au meilleur d'elle-même, elle est obligée d'avoir des produits qui lui ressemblent. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que l'industrie qui lance des produits, parce que c'est la grande mode, hein, tous ils vont le faire, toutes les grandes marques sont en train de lancer...
Vont le faire, c'est-à-dire ?
En fait, toutes les grandes marques sont en train de diversifier l'offre, parce qu'avant, dans les fonds de teint, si vous voulez, il y avait 5 ou 6 teintes destinées aux peaux caucasiennes, aux peaux les plus claires. Et puis, maintenant, vous avez des marques qui lancent jusqu'à 40 fonds de teint. Mais ça ne veut pas dire que ces marques vont aller vers la cible à qui se destinent, par exemple, les vins fonds de teint les plus foncés. Donc, c'est là où se trouve le problème.
Et quand Estée Lauder lance 51 nuances, alors, on est plutôt obligé de citer quelques marques. Hein, Fenty Beauty, qui est la marque de la chanteuse Rihanna, 40 nuances de fond de teint.
Tout à fait.
Et pour autant, vous dites que ça n'est pas forcément adapté aux peaux noires. Et alors, les fonds de teint les plus foncés,
ça peut être adapté, mais pas disponible.
Si je peux me permettre, ils sont adaptés. La difficulté, c'est qu'ils font des lancements. Sauf que pour trouver ces teintes en magasin, c'est impossible, sauf dans certains points. Ça veut dire qu'ils ont fait l'effort, effectivement, de faire de la recherche, de créer des produits, d'investir, sauf que ces produits ne sont pas disponibles en l'état. Et quand on rentre dans un magasin, que ce soit pour Estée Lauder ou autre, on nous dit, vous avez qu'à aller chercher sur Internet. Donc choisir votre fond de teint sur Internet, c'est très compliqué. Et si je peux rebondir sur autre chose, l'ethnique, c'est un terme qui existe effectivement, c'est un terme sous lequel on cache une couleur ou des couleurs, et c'est un terme qui pose problème. Parce que d'un côté, d'un point de vue positif, effectivement, le marché s'est ouvert à toutes les couleurs, à tous les types de peau aussi, parce qu'une couleur n'est pas nécessairement associée à un type de peau, mais il faut savoir aussi que sous ce mot-là, on fait de l'ostracisme, selon de quel côté on se trouve.
On commence par faire de l'ostracisme quand on cherche sa teinte et qu'elle n'est pas disponible en boutique et qu'il faut aller sur Internet, Muriel Beradia.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ce que dit Catherine. Dans certains points de vente, il n'y a pas forcément les couleurs adaptées justement à notre type de peau. Donc c'est un souci. Donc c'est vrai d'ouvrir les marques généralistes qui ouvrent leur cible à destination des peaux mates à foncer, c'est très bien. Maintenant, encore faut-il pouvoir trouver sa couleur dans les points de vente où on doit les trouver.
Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, Michel Nicouet-Pachou, les grandes marques, les produits des grandes marques sont élaborés à la base pour un physique caucasien, c'est-à-dire pour des peaux blanches, déclinés dans de multiples couleurs, mais sans réellement prendre en compte la peau noire dans sa diversité, dans sa spécificité ou
alors,
pas? C'est une question que je vous pose.
Il faut séparer les produits de beauté des produits de maquillage. Les produits de maquillage posent le problème de la coloration, des différentes tonalités de peau noire. Il y en a plus d'une trentaine. Ça veut dire donc que sur les étals, dans les testeurs, il faut vraiment qu'il y ait une représentativité de toutes ces couleurs. C'est assez rarement fait. C'est pire encore quand on cherche des produits de beauté naturelle, pour lesquels les circuits de distribution sont sont numériquement faibles et pour lesquels il y a encore plus de difficultés à avoir toutes ces tonalités.
Ça, c'est pour le maquillage.
Ça, c'est pour le maquillage. En ce qui concerne les produits de soins, c'est-à-dire pour prendre soin de la peau, les crèmes hydratantes, etc., on pourrait supposer que les peaux noires ont besoin de lutter contre un certain type de soucis, la déshydratation, l'unité du teint. Hein, les peaux noires sont rarement des peaux uniformes, mais en ce qui concerne l'hydratation, on peut tout à fait trouver des crèmes hydratantes qui ne posent pas de problème quand on est noir. Par contre, pour tout ce qui concerne le capillaire, on est dans des spécificités telles qu'il faut vraiment des produits dédiés aux cheveux crépus, aux cheveux qui sont défrisés, aux cheveux qui sont tressés, etc.
Alors justement, il y a une problématique numéro une sur les femmes de couleur, ce sont les taches. Et nous, Nuanciam, nos produits sont adaptés parce qu'ils sont testés justement sur les phototypes de 3 à 6 et qui vont retirer justement ces taches vilaines qui sont laissées par des traces d'acné, par des masques de grossesse, par des piqûres. Alors un produit de marque généraliste ne sera pas forcément adapté puisqu'il a été conçu pour des peaux caucasiennes et testé sur des peaux caucasiennes.
Aujourd'hui, néanmoins, vous le disiez, Marie-Jeanne Servin-Thomas, toutes les marques souhaitent s'adresser à des consommatrices qui ont la peau noire pour des raisons de marché, démographiques aussi. Il y a des communautés noires, pas seulement sur le continent africain, mais bien sûr ailleurs, quoiqu'à terme, le continent africain va peser forcément extrêmement lourd aussi. On a des mannequins noirs qui sont très représentés dans les publicités. Est-ce que, pour autant, les professionnels des grandes marques sont très à l'aise avec le sujet?
Absolument pas. Absolument pas. Déjà, pour trouver le terme, ils ont beaucoup du mal à dire noir. Alors, on va vous dire les bronzés, diversité, inclusion. Donc déjà, parler de la femme noire, pour eux, c'est quelque chose vraiment qu'ils ont du mal à faire. Deuxièmement, il n'y a pas de service après-vente. C'est-à-dire que quand on va dans une parfumerie, qu'on cherche un produit, on va avoir une vendeuse qui va vous dire « Ouais, ça, c'est peut-être bien. » Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allée à une présentation de presse. Il y avait un maquilleur qui était dédié. Il me dit « Oui, ça, c'est super pour les peaux noires. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous me conseillez ?» Il me met un fond de teint, j'étais grise. Alors, il me dit « Ouais, là, il faut... » Bon, finalement, en fait, il m'a proposé 3 produits. Alors, je dis « Vous vous rendez compte ?» Ça veut dire que le matin, je serai obligée de mettre 3 produits pour avoir quelque chose qui me ressemble un peu. Donc, premièrement, il n'y a pas la compétence. Deuxièmement, j'ai discuté une fois avec une chercheuse qui a travaillé pour des très grands laboratoires. Elle me dit, mais tu sais, tous ces produits, les gens qui font ces produits ne connaissent pas les femmes noires. Ils ne sont pas en rapport avec elles. Parfois, la seule femme noire qu'il y a dans l'environnement, c'est celle qui fait le ménage, ou alors c'est le vigie qui est à la porte. Donc, et ils ne cherchent même pas à faire des tests sur les peaux noires, ils les font au laboratoire. Donc, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Mais simplement, ils sentent qu'il y a un marché. Donc, quand on voit un mannequin noir, ça ne veut pas dire qu'on s'adresse à une femme noire. Ça veut dire qu'en fait, elle est inclue un petit peu comme ça, comme on fait un milkshake, on met un petit peu de tout et puis on pense que ça va donner quelque chose.
Moi, j'ai beaucoup à dire sur la question.
Donc, ce n'est que de l'affichage et pas un réel intérêt et compétence pour servir ces consommatrices-là.
C'est un gros combat pour moi, effectivement, en ayant monté Black Beauty. J'arrive, effectivement. L'idée, en fait, c'est que les femmes noires aient droit aux mêmes communications en termes de cosmétiques, notamment, même dans d'autres domaines. Mais là, on est en cosmétique, que les autres consommatrices. Il se trouve que ces grandes marques, ces gros groupes tels que L'Oréal ou autres, veulent a priori inclure les femmes, ce qu'ils appellent les femmes de couleur, les noires, la diversité, mais ça s'arrête là, en fait. Ça signifie qu'ils ne veulent absolument pas communiquer envers cette cible. Pour certains, ils ne veulent même pas associer leur image de marque à la presse ou à la télé qui concerne cette cible. Et on se retrouve avec un décalage qui s'appelle quand même l'hypocrisie, parce qu'on va utiliser des mannequins noirs pour faire croire que on s'adresse à cette cible, mais on ne veut pas aller jusqu'au bout, on ne veut pas communiquer envers cette cible. Et on nous dit, oui, bon, c'est de la diversité, on s'adresse à tout le monde. Et pire encore, ils vont chercher des produits, des matières sur le continent qui ne veulent absolument pas associer à cette cible.
À quoi vous pensez comme matière ?
À le karité, le macadamia, dernièrement le macadamia, dans certains produits Garnier. Je cite parce que je suis vraiment à l'aise, il faut le dire.
Karité,
en fait.
les deux premiers producteurs mondiaux, c'est le Nigeria et le Burkina Faso.
Le cacao, bien sûr. Qui sont dans les produits également de cosmétiques. La Nigel, enfin, tout un tas de marques généralistes vont aller, n'en déplaise à certains, piller le continent pour ensuite faire croire que, et c'est toujours dans un souci de démarche économique en fait, en négligeant cette cible.
Je dirais aussi que parfois c'est le discours marketing qui met en avant ces ingrédients naturels issus du continent. Ce sont des ingrédients d'appel, on va dire, et parfois ils représentent une très petite proportion de la formule.
Mais alors vous, ce que vous réclamez, c'est du marketing ethnique dans le fond?
En fait, on n'est pas en train de faire la charité, de demander des sous à des marques. On dit simplement que nous sommes en contact avec une cible, nous sommes en contact avec nos lectrices. Nous voyons comment elles évoluent par rapport à ces produits et nous voyons aussi comment le monde de la cosmétique évolue. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait aucune marque qui allait en Chine. Aujourd'hui, la Chine est le premier marché pour la cosmétique. Et étant donné qu'il y a des petits problèmes économiques avec la Chine, donc toutes ces grandes marques regardent le monde noir, regardent l'Afrique, mais sans véritablement. Ils veulent y mettre un pied, mais en fait sans rien investir. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le service minimum qu'on doit donner finalement à une consommatrice, elle n'a pas. Nous, en tant que journalistes, on reçoit des dossiers de presse. Mais même pour tester un produit, donc destiné par exemple même aux cheveux crépus ou à la peau noire, c'est tout un problème pour les avoir.
Moi, j'irais beaucoup plus loin.
Alors que, bon, par exemple, des magazines caucasiens comme Elle ou Marie-Claire vont avoir 40 ou 50 de ces produits qui iront directement à la poubelle, alors que nous-mêmes... Donc, il y a véritablement 2 poids, 2 mesures. On essaye d'avoir cette cible, on essaye de lui prendre de l'argent, mais on ne veut pas apparaître dedans. Il y a même des marques qui vous disent « Oui, en fait, vos magazines ne sont pas assez luxueux, c'est pas assez tendance. » Alors je dis « Mais vous avez une cible qui est là, vous avez un pouvoir d'achat. » Ils se sentent très mal à l'aise.
Les consommatrices noires en France dépensent 4 fois plus que les blanches, bien sûr. Des consommatrices qui n'ont...
7 fois, les études montrent 7 fois.
Oui, moi j'ai vu 4 fois, mais ça a peut-être augmenté
mais
encore.
C'est quand même énorme.
Mais j'irai beaucoup plus loin sur le terme ethnique, en fait. On l'a entendu au début de cette émission, effectivement, il faut ethniciser. Quand on est sur le continent africain, pas de problème. En revanche, le mot ethnique en France, il faut bien le savoir, dans le marketing... est à double tranchant. C'est un appel aux consommatrices de couleur, ou asiatiques, ou bon, bref, qui ne sont pas caucasiennes, mais c'est aussi un terme qui sous-entend la discrimination. Et ça, c'est au niveau philosophique, au niveau historique, c'est important de savoir que le mot ethnique, à chaque fois qu'on est confronté à ce mot-là de la part d'une société, ça signifie mettre de côté. Et ça, c'est très important parce que c'est le fondement de ce mot-là. En France, en tout cas.
Mais donc, dans le fond, les marques ont raison d'être frileuses. Ça pourrait se retourner contre elles, d'une certaine façon.
Comment ça, elles ont raison d'être frileuses?
C'est-à-dire qu'effectivement, si on les taxe de marketing ethnique, c'est une réelle menace aussi pour
elles. Le mot employé lui-même, quand on me dit, par exemple, pour ne pas la nommer, une agence Publicis, donc une grosse agence de communication, pas de publicité d'une manière générale pour la cible ethnique, ça signifie qu'on ne reconnaît pas l'ethnicité dans ce qu'elle a de particulièrement positif, mais c'est dans la discrimination qu'on la reconnaît.
C'est bien
et ça, c'est grave.
C'est bien pour ça, parce que je le rappelle, vous avez été il y a quelques semaines en fait au cœur d'une polémique sur le net, parce que votre magazine s'était vu refuser une campagne de pub.
Non, pas du tout. C'est pas refuser une campagne de publicité, ça veut dire que ce soit Marie-Jeanne.
D'être annonceur dans vos pages.
On pousse, le combat en fait de nos presses, c'est de pousser à avoir la même visibilité des marques généralistes qui s'adressent à ces consommatrices que, comme le disait Marie-Jeanne, dans des magazines autres généralistes, qui sont elles ou autres. Donc,
en fait, le paradoxe avec ces marques, c'est que vous allez avoir, par exemple, un fond de teint destiné à une femme noire qui va paraître dans un magazine caucasien que n'ira certainement pas cette femme noire, d'accord? Alors que, en fait...
Pourquoi?
Ben, parce que les chiffres sont là.
Il y a des Françaises qui ont la peau noire et qui lisent les magazines.
Oui, mais l'identification n'est pas la même.
Ça, c'est une évidence. Iman Bowie le disait, effectivement, en créant sa marque.
Du tout la même chose, en fait. Oui. Quand on prend un shampoing pour cheveux secs et un shampoing pour cheveux crépus, ça n'a rien à voir. D'accord, même si le cheveu crépus est par naissance sec. Donc, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc, nous, on essaye vraiment d'aller au cœur de la préoccupation de la lectrice, de la consommatrice. Et quand on en parle aux marques, elles sont là attentives, mais rien ne se passe. Et contrairement à ce qu'on disait, moi, ça fait 29 ans que j'ai lancé Brune. Au contraire, on voit qu'il y a une régression, qu'il y a une espèce d'hypocrisie, que cette espèce de forme de racisme, finalement, au bon teint,
sous couvert de s'adresser à toutes les femmes, réalité, il y a une cible qui est la cible de la femme noire, qui est largement laissée pour compte,
tabou.
Selon vous.
Tout
c'est ça.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment un malaise. Les gens ne savent pas comment en parler.
Moi, je serais un peu plus nuancée sur un certain type de femme noire qui justement ne veut pas être identifiée comme étant noire dans le discours marketing et qui va toujours consommer des grandes marques, etc., qui ne sont pas forcément adressées à elle a priori. Il y a aussi ça, une espèce de snobisme à vouloir quelque chose de l'ordre du luxe ou d'une marque un peu internationale et qui, ces femmes ne veulent pas qu'on dise qu'elles sont ethnicisées. Il y a le double discours
qui concerne une très petite minorité de femmes noires qui ont un fort pouvoir d'achat,
qui veulent consommer des grandes marques, néanmoins, qui évidemment préféreraient avoir des produits déclinés spécifiques pour leur peau à l'intérieur de ces grandes marques. Je pense que ça semble
Évident. Je pense qu'intellectuellement, elles aimeraient bien, mais je ne suis pas certaine que dans leurs actes de consommation, notamment de beauté, qui n'est pas du tout quelque chose c'est du rêve qu'on vend quand on vend de la beauté. Parfois, il y a des femmes qui peuvent consommer de manière un peu légère des marques qui ne s'adressent pas à elles.
Mais parce que c'est une pathologie.
La beauté, en tout cas, c'est pour toutes les femmes, mais évidemment pas forcément aussi pour toutes les bourses, c'est tout le problème. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quels sont vos actes de beauté spécifiques pour les peaux noires? On discute de ce fameux marketing ethnique et surtout, dites-nous quels sont les cosmétiques disponibles dans le pays où vous êtes et qui sont appropriés pour votre peau. 33 33 1 84 22 71 71. Comment Mwenyama fo kulama. Me arobo vivilama. Vilama. Babo ma de tolama. Tolama. So, so, get away. Master gazelle goma. Cash. Gamma le spana money. Bottle look in a me. So, so, get away. I know you're looking at me. You know I'm waiting for you. I know you're looking at me.
Mama vide,
si
yo, wayo vide,
super,
mio besi vide, DJ le mix et le beat,
beat.
Et Raya Jova le hit,
beat.
Gogo Doji va le vibre,
brr.
So, so, get away.
I know you're looking at me, you know I'm waiting for you. I know you're looking at me, ah.
Besi.
For all as
Jojo
da all le pointu,
pointu.
Ambiance à me blague, j'en le linko. Faut qu'on fie ouais, j'en le dépère. Les jogos la forme, ça déwane. So, 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 get away.
I know you're looking at me. You know I'm waiting for you. I know you're looking at me. Ah,
merci.
Togolais tout fan, Bessie Becco, ça débat durement dans le studio des 7 milliards de voisins. On parle des produits cosmétiques pour les peaux noires et pour les peaux métisses. Y a-t-il suffisamment de produits disponibles pour vous, mesdames? Pour les hommes, ce sera pour une autre émission. Écoutez le message d'une voisine postée du Cameroun sur notre serveur WhatsApp.
Bonjour toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Je suis Fanny Azangui. Bertoire Cameroun. Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus à savoir si le cosmétique qu'ils utilisent est adapté à leur type de peau. Tout ce qui intéresse aujourd'hui la jeunesse africaine, plus particulièrement les filles, c'est de savoir à quel point le cosmétique qu'on utilise pour sa peau est éclaircissant. Et je pense que le phénomène devient de plus en plus accentué parce qu'aujourd'hui, l'Afrique manque de modèles forts pour valoriser la peau noire. Toutes ces stars africaines qui sont suivies, vous allez voir dans les clips, on met en avant les peaux très éclaircies. On a tendance à montrer aux jeunes qu'effectivement, c'est ce qui est bien vu, c'est ce qui est à la mode. Et finalement, vous vous retrouvez en train d'avoir des enfants de 15, 18 ans en train de se décaper. Et après, il n'y a personne pour leur expliquer que plus tard, ce sera après des maladies de la peau, des cancers. Je trouve ça dommage parce que la peau noire est une belle peau et qu'il faut simplement l'entretenir et ne pas chercher à la blanchir parce que la beauté, ce n'est pas seulement être blanche ou être brune. Et je voudrais que tous ceux qui sont des modèles forts pour les communautés africaines essayent d'être des ambassadeurs effectivement de la peau noire, qu'on essaie de mettre ça en avant. Merci à toute l'équipe.
Michel Nicoué-Pachou, vous êtes docteur en pharmacie à l'origine. Avant de vous intéresser à la beauté, de publier Beauté Noire, des cosmétiques faits maison à partir de produits naturels. Mais le problème du blanchiment de la peau sur le continent africain, on en parle tout le temps. C'est abordé régulièrement dans l'émission Priorité Santé d'ailleurs, avec des dermatologues. Et quoi?
Alors les études qui sont faites à Dakar, notamment par le docteur Si, qui s'est occupé de ce type de personnes qui voulaient arrêter l'éclaircissement de la peau, montrent que ce sont des critères de beauté plus que le désir de blanchir. C'est, on considère qu'une peau claire est une peau plus désirable, que les hommes préfèrent les femmes claires, etc. Et il faut non pas les diaboliser, mais leur expliquer évidemment quelles sont les spécificités des peaux noires et qu'est-ce que ça occasionne comme problème de santé gravissime quand on utilise ce type de produit. Je pense qu'il y a des manières de regarder la peau noire qui sont très stigmatisantes depuis toujours. Et cette dame, notre auditrice, parle bien des représentativités. tant qu'on aura des Beyoncé qui ont des cheveux lisses et longs et des peaux claires, ça posera problème pour l'identification des jeunes femmes sur des peaux noires saines. Hein. Il n'est pas génétiquement possible d'être noire, d'avoir des gènes originaires d'Afrique et d'avoir la peau claire et les cheveux lisses.
Lupita Nyong'o, égérie d'une grande marque internationale, qui a la peau clairement noire. Ça ne suffit pas, c'est encore une toute petite représentation, un tout petit modèle.
Elle n'a pas cette notoriété en Afrique, en fait. On distingue celles qui sont... C'est une nouvelle génération, et ce mouvement, effectivement, de cessation, de blanchiment, je pense, viendra, entre guillemets, des diasporas et de cette nouvelle, cette jeunesse, en fait. Le problème se pose entièrement pour les anciens et les anciennes, hommes et femmes confondus, mais une Lupita par exemple n'a pas la notoriété sur le continent africain qu'elle peut avoir aux États-Unis, en France ou ailleurs. Et c'est d'autres personnes qui sont, à travers des clips, à travers la musique, qui font fantasmer effectivement avec une peau claire, avec des cheveux raides.
Et ça, c'est un véritable problème.
Oui, Marie-Jeanne Servin-Thomas.
En fait, c'est un problème qui est complexe. Moi, je vois au Mali, il y a quelques années, j'étais à Dakar, il y avait une réunion de griottes maliennes. Et elles étaient tellement dépigmentées. Et ce sont des femmes qui sont des leaders d'opinion, qui sont des icônes. Et c'est vrai que quand on ne voit que ça, on n'a pas besoin d'aller voir Beyoncé. Et Beyoncé, c'est une chabine, comme on dit. Si elle est née claire, bon, c'est pas de sa faute. Et si elle ne représente pas forcément l'archétype de la beauté, mais c'est vrai, étant donné qu'elle est chanteuse et que à travers les clips, on la voit plus souvent que Lupita. Mais vous avez culturellement en Afrique aussi des gens qui ont depuis très très longtemps les griottes au Mali. Elles sont dépigmentées à 100%. Les chanteuses en RDC, et même les chanteurs, c'est quand même un gros problème.
Alors, c'est pas un problème spécifique au continent africain, si on regarde l'Inde.
Non, parce que l'Asie je m'adresse à
vous,
Noël Daradia,
parce que vous êtes d'origine indienne, vous avez la peau foncée. Dans ce pays, il y a énormément de différences de couleur de peau. Il y a encore des publicités qui vantent les mérites d'une crème éclaircissante pour perdre des teintes.
Alors, ce sont des... Oui, enfin, le terme éclaircissant, c'est est un peu... Il faut quand même remettre les choses à leur place. Moi, nous avons sorti un sérum qui va traiter les taches pigmentaires. Donc, très clairement, les taches pigmentaires sont foncées sur notre type de peau. Donc, on vient, évidemment, éclaircir. Mais on ne vient pas blanchir et on éclaircit que la tache. Maintenant, il est vrai qu'en Inde... En Afrique, en Asie, l'éclaircissement de la peau, c'est courant. Mais vous avez des éclaircissements de peau qui sont faits par des marques qui sont tout à fait soft et des produits qui sont... qui sont tout à fait légalisés. La cosmétique en France, la cosmétique européenne, est la plus drastique au monde. Après, il est très clair qu'on parlait de blanchiment de la peau. Là, c'est bien différent. Ce sont des produits dangereux. On en trouve en Afrique, on peut en trouver aussi en Inde. Et là, il est très clair que
Vos produits Nuancia sont fabriqués en France, donc sous normes européennes. Ils sont vendus en pharmacie et sur le net. Et d'ailleurs, vous vendez dans une vingtaine de pays. Mais effectivement, sous le label Made in France, hein, on est bien d'accord
pour
vous.
Tout à fait. Oui, oui.
Néanmoins, ça pose quand même le problème de la disponibilité des cosmétiques, des produits de beauté pour les peaux noires sur le continent africain. Alors, est-ce que là, on est dans une toute autre situation? Il y a le problème des éclaircissements, mais pas que. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des progrès qui ont été accomplis? Il y a des femmes entrepreneuses qui veulent se lancer sur le marché des cosmétiques avec des produits africains pour des consommatrices africaines, pour des peaux noires adaptées au climat, etc. Est-ce que ça progresse ou pas, Marie-Jeanne Servin-Thomas?
Oui, bien sûr. Par exemple, dans le dernier numéro de Brune, nous avons un papier très intéressant sur une ancienne directrice financière qui s'appelle Awam Balo, qui vient de lancer à Dakar donc une marque de cosmétiques avec, pour l'instant, pas beaucoup de produits, mais ça ira en progressant, avec une palette donc de blush et une palette de fard à paupières et de rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que c'est une jeune femme qui s'est rendue compte que la majorité des propositions qui existaient sur le marché soit étaient des produits de mauvaise qualité, des filles qui avaient des allergies, des boutons, on n'arrivait pas. Il y a aussi des palettes, par exemple, de maquillage qui sont vendues, et quand vous les mettez sur une peau noire, en fait, ça n'a aucun effet. En fait, c'est un bleu, même chez les grandes marques. Hein. On vous dit parfois bleu outre-mer ou bleu marine, et puis sur une peau noire, en fait, ça ne fait rien du tout, parce que ce n'est pas assez pigmenté. Donc, elle a tenu compte d'un certain nombre de choses, et elle a pu lancer ça. En Côte d'Ivoire, vous avez des grands groupes libanais qui ont lancé des produits cosmétiques qui sont faits en Italie et qui communiquent beaucoup et qui marchent très bien parce qu'ils ont compris que la demande en fait, de produits de qualité était de plus en plus importante. Et leur valeur ajoutée, c'est d'être proche de la consommatrice. L'autre problème aussi vient des pays anglophones qui déversent sur le marché énormément de choses, que ce soit des produits dépigmentants très forts qui vous proposent finalement un blanchiment en 48 heures, en 72 heures.
Des produits qui seraient interdits en Europe, aux États-Unis.
Ah oui, tout à fait.
Et sur le continent aussi.
Et mais même sur le continent.
Bien, oui, bien sûr. Eux-mêmes, le Kenya, le Nigeria et le dernier en date, le Rwanda, interdisent ces produits. Donc du coup, ils les écoulent là où c'est permis, frontières sont ouvertes pour ce genre de produits. Tout à fait.
Ces produits-là sont interdits dans les pays que vous avez cités. Ouais. Dans le commerce formel.
Dans le commerce formel, bien évidemment.
La beauté en Afrique est d'abord un commerce informel. Donc ça, il faut le voir. Il y a beaucoup de systèmes tupperware pour vendre, enfin, si on peut dire ça, c'est-à-dire des systèmes de vente à domicile. Les femmes vont acheter leur vernis à ongles, même se faire déposer des fossiles au marché. Quand vous allez au marché de Trècheville à Abidjan, vous pouvez vous faire un make-up ou vous faire une teinture de sourcils, mais vous ne savez pas d'où viennent les produits. Ça peut être des produits pour les cheveux qui ne sont pas du tout adaptés aux sourcils ni aux cils.
C'est ça.
Donc
on
voilà. Donc
on les... le voit bien, il y a vraiment cette culture de la beauté
hein, ah oui, bien sûr.
Aux femmes noires. Oui. Néanmoins, dans des sociétés où la beauté est valorisée, il y a cet intérêt-là, mais effectivement, il n'y a pas forcément la qualité, le contrôle.
Bien sûr.
Et puis, les produits de qualité à la disposition de toutes les bourses. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Une voisine, Evelyne, nous appelle d'Abidjan. Bonjour Evelyne.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct, on vous écoute. Alors, quelle est votre attitude par rapport aux besoins de votre peau, de votre beauté?
Alors moi, il y a 3 ans auparavant, j'utilisais beaucoup les produits importés et je n'ai pas trouvé vraiment ce qui correspondait à ma peau. Et je me suis tournée vers les pharmacies parce qu'on nous avait dit que là-bas, on pouvait trouver des produits importés très chers, mais qui allaient faire l'affaire. Mm-hmm. Bon, il faut dire que j'ai été déçue. Et donc, depuis 3 ans, je n'utilise que des produits locaux. Mm-hmm. Le beurre de karité, de l'huile d'olivière et tout ce qui va avec des produits locaux. Et je peux dire que jusque-là, ça me va très bien. Les maquillages, je ne les utilise que pour les grandes occasions et je vais voir des professionnels. Mm-hmm. Maintenant, avec la chaleur, je ne suis pas trop fond de teint. Mm-hmm. Donc... je fais vraiment avec tout ce qu'il y a, peut-être un crayon juste pour dessiner les cils. Mmh. Et j'utilise même le beurre de karité aussi pour mes lèvres. Mmh. Et jusque-là, je n'ai pas vraiment de problème de peau et je me sens vraiment à l'aise. Et franchement, moi, c'est ce que je peux conseiller. Alors produits locaux sont aussi meilleurs.
Vous parliez de fond de teint, Evelyne. Je rebondis avec le message d'une auditrice, Christine, à Yaoundé, qui a posté le commentaire suivant. Les produits qui me conviennent en France ne me vont pas au Cameroun à cause du climat. Ils sont lourds en saison sèche ou trop légers et pas assez hydratants. Sur le fond de teint, effectivement, en climat humide, c'est un problème, le fond de teint, non, mesdames?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait.
Le fond de teint, les crèmes, tout ce qui est cosmétique, effectivement.
On peut utiliser des poudres minérales qui sont un tout petit peu plus légères et qui matifient un peu la peau. Il faut vraiment adapter au climat, ça c'est évident.
Mais alors Evelyne, si j'ai bien compris, du coup quand vous parlez d'huile d'olive, de beurre de karité, vous utilisez ces produits-là bruts ou bien mélangés, transformés, vous faites un peu votre propre cuisine ou vous achetez à des artisans qui transforment légèrement ces produits?
Alors, au nord de mon pays, il y a une région là où le beurre de karité est fabriqué de façon brute. Et donc, j'ai une connaissance qui vient souvent sur Abidjan et qui m'envoie des produits vraiment fabriqués bio. Mm-hmm. Et en ce qui concerne ma peau, je les utilise brutes. Mais en ce qui concerne mes cheveux, je fais des mélanges, mais toujours avec des produits locaux. Je mélange le beurre de karité, je fais des bains-maries, je fais avec l'œuf, l'avocat, je fais des masques. Et j'utilise même l'huile aussi pour pour vraiment embellir tout cela.
C'est ça, vous avez transformé votre cuisine en laboratoire de cosmétiques.
Et puis aussi pour éviter les dangers industriels aussi, parce que après ça laisse aussi beaucoup de traces et tout ça, donc voilà.
Merci Evelyne de nous avoir appelé.
Cette
et ben vous voyez, oui, votre guide beauté noire cosmétique fait maison pour peau noire et cheveux crépus, Michel Nicouépachou, a de l'avenir, de plus en plus d'intérêt pour le fait maison en général d'ailleurs, hein, pas seulement pour les peaux noires, pour les cosmétiques, pour les produits d'entretien en Europe, aux États-Unis, en Afrique.
C'est une vague de fond. Beaucoup de consommatrices ont envie de revenir à des choses plus simples, plus fondamentales, qui ne remettent ni en cause leur santé, ni l'environnement. Le problème de beaucoup de produits d'ingrédients cosmétiques, c'est qu'ils ont un impact très négatif sur l'environnement. Et quel que soit le lieu de la planète où on habite, on est en contact avec énormément de perturbateurs endocriniens et d'autres produits de ce type. Donc revenir à des fondamentaux n'empêche
pas... Qu'est-ce qu'on peut faire facilement
Des mélanges huileux, votre interlocutrice l'a dit, ça permet de faire des sérums qui sont parfois vendus extrêmement chers dans des marques conventionnelles.
Vous pouvez nous donner un exemple, une recette facile à réaliser?
Alors avec des produits africains, on peut tout à fait mettre une cuillère à café d'huile de coco, 2 cuillères à café d'une autre huile végétale, type huile de moringa, huile de baobab, huile de sésame. Au Burkina, on produit une huile de sésame qui est assez fine. Et on va rajouter une petite goutte d'une huile jaune, type huile de palme, produite localement, le Zomi au Togo, par exemple, au Bénin, qui va apporter des oméga 3 et aussi des bêta-carotènes extrêmement intéressants pour la peau.
On mélange ces huiles?
On mélange tout ça. Et ça va donner un sérum légèrement jaune qui va apporter tous les acides gras nécessaires et aussi les antioxydants dont on a besoin au quotidien. Et on pourra mélanger ça quand il fait froid à un beurre, type beurre de karité, qui est un tout petit peu plus couvrant, un peu plus épais.
Muriel Beradia, alors évidemment vous travaillez beaucoup avec des produits naturels, mais là par contre c'est vraiment en laboratoire hein, vos produits.
Oui, alors, il est très clair. Moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, je vois en animation ou sur des salons des jeunes femmes qui ont justement fait un petit peu leur cuisine chez elles et qui arrivent avec des brûlures. Donc, faire très attention quand même à la cosmétique chez soi. Les gens ne sont pas des chimistes. Nous avons créé notre marque avec mon associé Jocelyn Barito. On a un parcours de plus de 20 ans dans des grandes maisons. Et voilà, et on existe, et ça fait 9 ans. Donc les produits sont évidemment testés, formulés, pour justement répondre aux besoins de ces femmes. Donc je mets toujours quand même en garde, parce que je vois justement des clientes et des personnes qui utilisent nos produits, qui utilisent la marque Nuanciam, et qui viennent en disant, bah, écoutez, je reviens à vos produits parce que j'ai vu une blogueuse qui avait mis sur internet une recette, j'ai essayé, regardez. Voilà. Et puis encore une fois...
Tout est question de qualité, de formation.
Exactement. Et,
on ne fait pas n'importe quoi dans sa cuisine. Quand
exactement.
Donc,
et puis attention aux bactéries, parce que très clairement, voilà, il faut avoir aussi des conditionnements qui sont adaptés.
Vous parliez des blogueuses, ça sera peut-être le mot de la fin, mais aujourd'hui, l'Internet, la parole que prennent les femmes sur l'Internet, sur les blogs, et d'ailleurs qui suscite l'intérêt des grandes marques, hein, pour revenir à la question qui nous intéressait au tout début, hein, faut-il ethniciser le marketing, la cosmétique? Est-ce que cela, à terme, va créer un changement, va créer plus d'intérêt pour la beauté noire, Marie-Jeanne Servin-Thomas?
Alors, je dirais oui et non, parce que les blogueuses ne sont pas des journalistes, ce sont des gens qui donnent leur coup de cœur, avec beaucoup de subjectivité. Et en fait, pourquoi elles intéressent les marques? Parce qu'en fait, ce sont pas des proies, mais ce sont des influenceuses faciles qui n'ont pas les critères que nous pourrions avoir. Moi, je peux très bien écrire, il ne faut pas se défriser les cheveux parce que vous avez tant de risques d'avoir des chutes, vous avez tant de risques d'avoir des brûlures et tout ça. Les blogueuses ne vont pas faire ça. Quand on parlait tout à l'heure de blanchiment, de temps en temps avec ma fille, on regarde et puis on rigole beaucoup, on voit des jeunes femmes se maquiller sur des tutoriels, mais elles mettent tellement de produits qu'on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, à quel moment ça veut dire se lever à 4 heures du matin pour être finir son maquillage à 5 heures? Et surtout avec une masse de produits, parce que elles imitent un petit peu les gens du show business. Et quand on fait du show business, on n'est pas forcément une secrétaire, on n'est pas forcément un prof, on n'est pas forcément quelqu'un de tous les jours. Donc, il y a beaucoup de dangers,
finalement. Il y a une logique économique aussi derrière.
Il y a une logique économique. Donc, je crois qu'on aura davantage, si vous voulez, de publicité, de commercial, comme on dit, sur les produits, mais d'informations véritables qui vous permettra de dire oui, non, ça, je peux y aller, ça, non. Je pense que non.
Quel progrès pour servir, mieux servir le,
après,
la
moi,
beauté noire,
Catherine Lasky,
il nous reste quelques secondes.
Les progrès d'ouverture, en fait. Éducation, sensibilisation et égalité.
Eh bien, merci à vous. Vous restez encore avec nous jusqu'à la fin de l'émission, mesdames, si vous êtes d'accord. Dans quelques instants, ce sera l'Afrique qui gagne chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Lui aussi, il gravite dans la mode, mais c'est plutôt la sape à Kinshasa. Senek Lomanga, congolais de 25 ans, a cofondé il y a 2 ans la plateforme de vente en ligne Molato Market. On peut commander des vêtements confectionnés par une vingtaine de créateurs. Ils sont tous congolais, des chemises, des robes, des vestes à partir d'une trentaine d'euros et plus. Pour femmes, pour hommes, pour enfants, c'est la seule plateforme basée en RDC qui privilégie le Made in Congo. Charlie Dupio l'a rencontré à Marseille il y a quelques semaines à l'occasion du Social and Inclusive Business Camp. Il était venu saper, bien sûr.
J'aime bien m'habiller, moi. J'aime bien tout ce qui est mode, j'aime bien tout ce qui est imprimé africain. Et du coup, quand j'ai mis certaines tenues, on me dit toujours, mais où est-ce que tu as fait ça? Qui t'a fait ça? C'est quel couturier et tout? Comme moi, aujourd'hui, j'ai mis ça, mélange du jeans avec du wax.
Là, vous portez donc une veste en jean avec les manches en jean et le reste en wax, en fait. Et alors vous, à quel moment vous avez commencé à bien vous habiller, à y faire attention?
Je dirais vers 16-17 ans en tout cas. Et c'est là que j'ai commencé à développer cette passion pour les imprimés africains. Pour dire vrai, au départ, je n'aimais pas en tout cas. Parce que nos créateurs, ils ont su valoriser le wax. Ils ont su valoriser les imprimés africains. Et quand un jeune met ça, il s'est dit, voilà, on n'a pas à se dire, t'as mis une tenue des parents et tout ça, ou bien c'est pour une cérémonie. Non, ici, aujourd'hui, on s'approprie plus au fait le wax.
Et alors le wax, ça reste un tissu fabriqué en Hollande. Comment parler d'imprimés africains?
Ouais, c'est un débat. C'est comme aujourd'hui, on a des produits Apple made in China. In China, c'est fait en Chine, mais s'il y a le logo Apple dessus, voilà. S'il faudrait vraiment rentrer dans l'origine du wax, on n'irait même pas en Hollande, on irait en Indonésie, parce que c'est là-bas, en fait, que tout a commencé avec l'histoire des imprimés et tout. Aujourd'hui, on peut dire le wax, c'est hollandais, mais combien d'Hollandais mettent du wax? La population africaine a le droit de revendiquer le wax. Donc, peu importe le lieu de production, du moment où... Nous, on a été à la base de l'inspiration, ben, nous on prend.
Puis vous vous souvenez de votre première tenue?
Oui, c'est un abacos.
Un abacos, qu'est-ce que c'est?
Un abacos, c'est genre un veste en bleu avec deux rajouts en jaune et tout. Du coup, ça faisait vraiment comme drapeau de la RDC, quoi. Et quand j'ai commencé à recevoir de feedback par rapport à ça, j'ai dit non, mais ça fait de moi un gars particulier, ça me permet de présenter un style unique.
Et comment vous avez rencontré ce premier créateur?
Il venait du Kasaï, qui est une province de la RDC. Et quand il est venu s'installer à Kinshasa, il cherchait un atelier, au fait. Il cherchait un endroit, en fait, où mettre son atelier. Évidemment, dans l'informel, c'était pas un local commercial qu'il cherchait. Et c'était chez nous, en fait. Genre, il est venu, il a toqué, on a dit, bon, OK, il n'y a pas de souci.
Dans votre maison?
Dans la parcelle. Évidemment, il payait quand même quelque chose. Donc, j'avais 17 ans quand il est arrivé. Et puis, il a fait la première tenue, quand on a vu que ça marchait. Et puis après, c'est vraiment un gars avec qui on évolue aussi, parmi les créateurs de Molato Market. Et d'autres, j'ai croisé par les canaux de ma mère, en fait, vu qu'elle aussi, comme je disais, les mamans africaines, les mamans congolaises et tout ça, c'est elle qui s'y connaissait, quoi, qui connaissait où trouver le bon tailleur, le bon couturier et tout. La plupart de nos créateurs évoluent dans l'informel. Non seulement vous êtes dans l'informel, mais vous faites aussi face à un problème de visibilité. Ils ne pourront venir vers vous que ceux-là qui savent que vous existez ou bien savent que vous avez un atelier là-bas. Donc du coup, aujourd'hui, comme je dis, vu qu'ils font face à un problème de visibilité, le fait d'avoir quelqu'un en fait qui se présente comme étant votre égérie et tout, comme votre ambassadeur en fait.
Et donc vous citiez à chaque fois le nom du créateur qui vous avait confectionné cette tenue?
Oui, hein, chaque fois qu'on me demandait mais qui a fait ça, je dis non mais c'est XY et voilà, c'est son adresse, vous pouvez y aller aussi. Voilà, c'était une façon pour moi de négocier en fait. Et bon, Dieu merci, ça a marché. Bon, à l'époque, c'était pas dans l'idée d'avoir des commissions, mais tout simplement parce que moi, c'était dans l'idée de pouvoir bénéficier de mes prix spéciaux à moi, ce qui me permettrait de pouvoir revenir toujours avoir aussi d'autres tenues et tout. Donc, je dirais à l'époque, si c'était à 10$, peut-être moi, il me faisait à 6.
Alors, donc, vous fondez Mulatto Market pour, en fait, permettre à des créateurs de mode congolais de vendre leurs produits plus facilement.
En lingala, ça veut dire vêtements, en fait, vêtements. J'ai commencé la fac, j'ai commencé mes études en sciences économiques. Et puis, Mulatto Market, c'est en 2016 qu'on a lancé la plateforme. 2016, j'étais en dernière année. Offrir un large public aux créateurs, apporter plus de lumière, mais aussi trouver, en faire aussi notre gagne-pain, quoi. Nous offrons l'espace aux créateurs de mode. Pour le moment, l'espace est gratuit. Ils n'ont pas à débourser de l'argent pour la plateforme. Mais du moins, nous prélevons des commissions sur chaque vente, au fait, dans la plateforme. Donc, chaque produit vendu doit déverser une commission de 15% dans la plateforme.
Ça fait un peu plus de 2 ans que vous avez lancé donc cette plateforme. Quels sont vos chiffres aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça génère vraiment du passage, du chiffre?
Oui, hein, je peux dire. Notre chiffre d'affaires, nous sommes allés au-delà de 22 000 $.
Donc 20 000 euros de chiffre d'affaires.
20 000 euros, voilà. Au niveau du staff, on est maintenant à 10 aujourd'hui. Quand on a commencé, on était à 2, à 3. On est aujourd'hui à plus de 750 commandes traitées déjà via la plateforme. On livre à Kinshasa, on livre à Lubumbashi, on livre au Kivu, le nord et le sud Kivu. On livre en France, on livre en Belgique. Puis dernièrement, ça, c'était vraiment une commande qu'on a aimée. C'était une commande du Japon en tout cas. L'Asie, on n'avait pas encore touché, on n'avait pas encore commencé en fait. Ça veut dire aujourd'hui, on sait quand même exporter le Made in Congo, le Made in Africa dans tous les continents. Lui, l'Afrique peut habiller le monde aujourd'hui.
Pour l'instant, en tout cas, il y a 22 marques de créateurs qui sont référencées sur la plateforme Mulatto Market. L'objectif d'ici l'été 2019, une centaine de marques hébergées avec des créateurs qui seraient sélectionnés en RDC, mais aussi au Congo-Brazza, au Sénégal, au Bénin. Alors, l'Afrique va-t-elle habiller le monde, Catherine Lasky?
Oui, je dirais que c'est l'image d'une nouvelle génération, en fait, qui donne ce continent en marche. Et c'est très intéressant de voir qu'avec de l'ancien, ils ont utilisé les nouvelles technologies pour faire avancer le continent, pour faire connaître le continent et faire connaître ses créateurs.
Et via sa jeunesse, avec une vraie demande locale de la jeunesse africaine, de pas avoir, ne pas s'habiller comme les parents, finalement, Marie-Jeanne.
Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est il y a deux expériences, par exemple celle d'Africara de Moulay Tabouré, qui est un jeune Malien qui aujourd'hui a 400 marques, hein, donc de produits africains, de la mode, de la décoration. Et c'est une tendance. Et surtout, ce qui est intéressant aussi pour ce jeune Congolais, c'est qu'il a un marché de plus de 70 millions d'habitants à habiller. Donc, et étant donné que l'ancien Zaïre avait lancé la mode de la bakos, c'est-à-dire ce costume mao redessiné à la mode congolaise. Donc il y a véritablement un marché potentiel. Après, bon, il faut voir
si
la
le
formation.
Pays parvient à sortir de la pauvreté.
Voilà. Et puis surtout, les gens quand même font attention à tout ce qui est technique, si vous voulez, de création. Donc le tout, c'est pas de proposer un produit qui soit alléchant. Il faudra aussi qu'il soit bien fait, qu'ils aient les techniques et tout ça. Et je peux vous dire que José et Sam, notre couturier chéri qu'on aime beaucoup, qui est congolais, qui était à Paris et maintenant a décidé de rentrer à Kinshasa parce que il y a aussi une demande très très forte ici là-bas.
Et je dirais, excusez-moi, ce qui est important aussi, ce qu'on a entendu montre que cette nouvelle génération va de l'avant. C'est, on se fiche de savoir si le wax est fabriqué ailleurs ou autre. Ce qui est important, c'est que les Africains se le sont appropriés et qu'à partir de là, on doit faire une économie avec ça.
Eh bien, merci à vous toutes. Marie-Jeanne Sarbin-Thomas, magazine Brune. Catherine Lasky, magazine Black Beauty Mag. Merci à vous, Muriel Berradia, fondatrice de la marque de cosmétiques Nuanciam. Et merci à vous, Michel Nikouépachou. Votre ancien métier, c'était la pharmacie. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dédié à la beauté noire, cosmétique fait maison pour peau noire et cheveux crépus. C'est publié aux éditions La Plage. C'est un livre très très documenté qui incite à la prudence si on fabrique ses cosmétiques soi-même. Et on peut aussi vous lire sur votre blog Potions et Chaudrons. Merci à toutes les quatre d'être passées chez les 7 milliards de voisins. Merci,
merci
à vous, mesdames.
À vous.
Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété.